La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ces albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Bonjour, bonsoir Radio Campus Paris, merci d'être avec nous ce soir et je commencerai tout de suite à plonger dans l'actualité en nous tournant vers le conflit majeur au Moyen-Orient et principalement en Iran à travers les simples mots « ça ne continuera pas, c'est trop bête ». Ces mots ne sont pas les miens mais ceux d'Albert Camus dans son roman « La peste » et comment ignorer la comparaison entre le drame humain fictionnel et celui proposé par nos bien connus bouffons du grand ordre mondial. Oui, c'est un conflit bête mené par des hommes bêtes et entre deux ou trois bêtises, les peuples sont blessés, souffrent et meurent. Quel meilleur mouroir que la planète Terre, quelle meilleure administration fantoche que l'ONU, mais surtout quelle meilleure peste que nos despotes caligulesques et pyromanes. Si Camus a pu dessiner les traits de la pitrerie humaine mondiale, il a aussi lu celle des docteurs de la peste, ses associations, ses politiques et plus largement ses humains au front pour indiquer le fléau, accompagner les malades et finalement pour les regarder mourir. Que faire, nous, fantassins ? Ne pas détourner le regard et crier, surtout crier. La voix humaine est faible sous le bruit des bombes, mais elle existe. Trump, Netanyahou, Al-Khomeini, Xi Jinping, Poutine, en voilà des hommes qui nous font pleuvoir du feu sur la tête avec leurs manches et grelots. Chez nous, la maladie n'est pas à son pic, mais Marianne a la gorge piquante et le front brûlant. Permettez-moi donc de retourner cet édito comme une crêpe beurre-sucre en vous appelant à empêcher notre peste, à nous trouver notre vaccin. En bref, n'oubliez pas d'aller voter. Au sommaire de cette matinale, tout de suite, pour la grande interview, nous retrouvons Hugo, qui recevra Sandra Lotte Fernandez, responsable de plaidoyer égalité homme-femme à Oxfam France. Ensuite, Iske nous donnera l'actualité dans le Flash Info. En troisième partie, nous aurons le Zoom mené par Anna et notre invité Thomas Dujac, président de l'AFNEUS, l'Association Fédérative Nationale des Étudiants Universitaires en Sciences, où nous discuterons de la place des femmes dans les sciences avec un grand S. Et nous finirons cette matinale en beauté avec la chronique de Greg.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Et passons tout de suite à la grande interview. Nous recevons donc Sandra Lotte Fernandez, responsable de plaidoyer égalité hommes-femmes à Oxfam France. Bonsoir Sandra.
Bonsoir.
Vous allez bien ?
Très bien, et vous ?
Ça va bien.
C'est Oxfam.
Oxfam, voilà. Et ce soir, vous serez interviewé par Hugo. Bonsoir Hugo.
Bonsoir, tout à fait. Vous venez nous parler du rapport. Ce rapport, il s'appelle « Pour des villes féministes ». Il classe les 100 plus grandes villes françaises selon leur engagement en faveur de l'égalité femmes-hommes. Ça tombe bien, on est en pleine élection municipale. Alors ma première question pour vous, Sandra, c'est quoi une ville féministe ?
Alors une ville féministe, c'est une ville qui a décidé de faire de l'égalité entre les femmes et les hommes, enfin l'égalité de genre et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, une priorité politique de l'action locale. Et voilà, qui prend un certain nombre d'engagements et qui porte ce sujet et qui fait des investissements justement en faveur de l'égalité et qui essaye justement de lutter contre les violences.
Et ce rapport, il parle de quoi ?
En fait, ce rapport, on l'a publié du coup il y a quelques jours et c'était vraiment en amont de la Journée internationale des droits des femmes, mais aussi à quelques jours du premier tour des élections municipales. L'idée, c'était de, voilà, avant chaque élection, on sait que c'est là aussi on a de l'intérêt des gens et de l'écoute. Et le constat, c'est de dire qu'on est parti d'un constat que l'égalité femmes-hommes, ça devait être la grande cause des deux quinquennats d'Emmanuel Macron. Souvent, je l'apprends aux gens, c'est vrai, depuis 2017. Et en fait, voilà, dès 2022, on a rédigé des analyses, des études sur l'action du gouvernement en faveur de l'égalité femmes-hommes. Et notre rapport s'appelle « Grande cause, petit bilan ». Je pense que vous pouvez voir à peu près où on veut en venir. Et voilà, c'est face en fait aux insuffisances de l'action nationale. Qu'est-ce qui peut être fait ? Et comment on fait pour avancer, lutter contre les violences, etc. Et en fait, on s'est intéressé à l'action des villes, des communes, parce que en fait, déjà l'égalité femmes-hommes, c'est une compétence qui est partagée entre l'État et les collectivités. Donc déjà de base, elles doivent faire des choses. Et en plus, ce qu'on a vu, c'est que, et ce qu'on a voulu montrer, c'est que face à la faiblesse de l'action du gouvernement, il y avait des villes, des élus qui s'étaient bougés et qui avaient fait avancer les choses sur leur territoire. Et on voulait justement, quelques jours d'une élection, essayer de montrer que quand on veut, on peut, et pousser les candidats à s'engager et à dire au 23 mars, je ferai de l'égalité femmes-hommes une priorité politique dans ma ville. Et voilà, je mettrai l'argent sur la table et je ferai les investissements nécessaires pour accélérer les choses sur mon territoire.
Justement, la collectivité la plus exemplaire en France, c'est Sarreguemines Confluence, alors qui est une communauté d'agglomération à cheval entre la Moselle et le Bas-Rhin, avec un score de 108 sur 100. C'est le rêve de tout élève. Alors, qu'est-ce qui se passe à Sarreguemines Confluence?
C'est les bons élèves en matière d'égalité professionnelle au sein de leurs équipes. Parce que voilà, on va pas dire que c'est les. Enfin, il y a d'autres exemples de villes qui ont fait des choses aussi très intéressantes. Et en fait, c'est une ville où je pense où on paye mieux les femmes que les hommes, ce qui est assez rare. c'est comme dans Astérix et Obélix, quoi. C'est le village gaulois. Et c'est une des villes qui a les meilleures performances et qui a deux années d'études vraiment eu une 108 sur 100. Quand on a ça, généralement, c'est qu'on a vraiment bien bossé. Donc voilà, c'est des villes où, justement, à l'inverse des tendances nationales, les femmes, enfin, il y a une vraie égalité salariale entre les femmes et les hommes. Il y a autant de femmes que d'hommes dans les postes les plus rémunérés, enfin, ce qui est quand même assez rare. En France et dans le monde en général.
Dans ce rapport, on lit « Là où l'égalité progresse, c'est quand elle est portée politiquement ». Ça veut dire quoi ?
Alors, d'objectiver les choses et de voir ce qui a été fait, on s'est appuyé justement sur les plus grandes villes françaises. Il y a plus de 35 000 communes en France, donc on ne pouvait pas regarder partout. Et on s'est intéressé à la composition des conseils municipaux. Parce qu'en fait, on le verra dans les semaines à venir, quand un maire est élu et compose ses délégations, fait les choix des sujets, c'est là où on voit en fait quelles vont être ses priorités d'action. Enfin, c'est des premiers signaux quand même de ce qui va être porté par le maire et l'équipe municipale. Et on a regardé dans 200 villes françaises, quand même assez sur tout le territoire, hexagonal, ultramarine, et on a voulu regarder ce qui se faisait dans les conseils municipaux. Et ce qu'on a pu observer, c'est que déjà en 2026, dans un tiers des conseils municipaux, il n'y a pas d'élus en charge de l'égalité femmes-hommes ou des droits des femmes ou de la lutte contre les violences. Enfin, c'est pas un sujet qui est porté par la mairie. Donc, ce qui est pas bien. Et nous, le premier message, c'est de dire en 2026, c'est plus acceptable. C'est quand même plus de la moitié des administrés. Il faut que partout en France, dans les conseils municipaux qui vont être nommés dans quelques jours maintenant, il faut que l'égalité soit portée. Et ce qu'on a regardé, c'est qu'il y a aussi une différence entre des villes qui ont, par exemple, nommé des adjoints, des adjointes, je veux dire adjointes à chaque fois parce que c'est quand même des femmes.
Quand la première adjointe est une femme, ça change quelque chose.
Ça montre quelque chose. Il y a quelques villes, par exemple, c'est à Bordeaux, mais il y a aussi à Angers, où la première adjointe, c'est une adjointe à l'égalité femmes-hommes. C'est quand même un signal qui est envoyé. Nous, on ne dit pas que c'est l'alpha et l'oméga, il n'y a que ça, mais c'était dans le portage politique, c'est déjà un premier indicateur. Et du coup, voilà, on s'est par exemple intéressé aux villes du Rassemblement national. Il y en avait 14
eux, trop,
jusqu'à. Non, pour montrer, voilà, on voulait regarder ce qui s'y faisait. Et là, on constate que sur les 14 villes dirigées par le Rassemblement national, il n'y en a qu'une seule où il y avait une élue en charge de ces sujets, une conseillère municipale. Et c'est une élue qui est en charge des droits des femmes et des hommes. Je vous avoue que moi qui travaille beaucoup sur ces sujets, c'est une dénomination assez particulière. Mais sinon, en tous les cas, il n'y a pas d'élu. Et on a regardé, par exemple, plus en détail, la ville de Perpignan, qui a malheureusement réélu Louis Alliot dimanche. Il y a un conseil municipal avec vraiment des délégations très, très précises. Il y a des élus, par exemple, en charge des relations avec la Fourrière, relations avec l'archevêché, l'histoire du Roussillon. Il y a 3 élus en charge des questions du stationnement. Mais il n'y a pas d'élu en charge des droits des femmes ou de la lutte contre les violences. Donc, ce qui pour nous montre que pour l'extrême droite, ce sujet n'est pas un sujet important. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'organisation de la société civile féministe, là, il reste encore des élections ce week-end. Et on appelle vraiment à faire barrage partout où c'est possible à l'avènement au pouvoir de l'extrême droite.
Et il y a aussi un autre sujet qui sont les droits LGBTQIA+. Mmh. Alors, il y a des grandes villes françaises qui ont des élus dédiés à ces droits-là, mais elles sont peu. Il y a Le Mans, Nantes et Saint-Denis à La Réunion. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces élus et est-ce qu'on va en voir plus qui vont arriver ?
On voulait aussi le montrer parce qu'il y a des élus en charge de la lutte contre les discriminations dans la plupart des grandes villes. Mais là, c'est des villes où vraiment c'est nommé et c'est un élu dédié à ces questions-là. Et ça montre aussi, c'est des signaux politiques. On nomme les choses et on va justement s'afficher comme un territoire qui va lutter contre les discriminations LGBTQIA+ et faire avancer les droits. On a regardé par exemple à Saint-Denis de la Réunion. Après ça, il y a eu l'ouverture de centres de ressources et de centres aussi pour les associations l'immigration, etc., pour essayer de faire avancer les droits sur ces territoires-là. Donc j'espère que, c'est une des recommandations qu'on fait aussi dans ce rapport, qu'il y aura aussi beaucoup plus d'élus clairement en charge de ces dossiers et qui font avancer ces sujets. Quand on voit l'augmentation des crimes et des délits homophobes en France, aujourd'hui, ça doit être une priorité de l'action locale.
Et oui, et est-ce que justement il y a des maires ou des qui sont présentés là, des candidats en France qui vous viennent en tête, qui ont porté ces sujets-là au municipal?
Ouais. C'est vrai que c'est plus particulier maintenant en période de deuxième tour pour nous d'en parler, mais il faut quand même le dire, il y a des villes qui se sont vraiment investies sur ces questions-là. Je cite souvent l'exemple de Nantes. Nantes, c'est une maire, Johanna Roland, la maire sortante, qui a décidé de s'est fixé un objectif politique. Ça peut faire un peu marketing politique, mais en vrai, c'était quand même, elle s'est fixé l'objectif d'être une ville non sexiste d'ici 2030.
Et c'est un signal, comme vous dites.
Et c'est un signal. Et derrière, il y a eu des choses. C'est-à-dire, à Nantes, la maire a ouvert un centre d'accueil pour les femmes victimes de violences. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça s'appelle Citadelle, s'il y a des Nantaises et des Nantais qui écoutent. Et voilà, c'est un investissement super important pour la ville et il y a plein d'autres choses qui ont été faites. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment sur la précarité menstruelle, qui touche beaucoup de jeunes actuellement, où ils mettent à disposition partout dans les équipements de la ville des protections hygiéniques gratuites pour que les femmes y aient accès, qui ont décortiqué leur budget en se posant les questions de l'égalité. Bon, voilà, il y a un objectif politique, mais derrière, il y a aussi des choses qui ont été faites. Et il y a des villes comme Nantes, mais aussi comme Strasbourg, ou Rouen, ou Paris, qui se disaient villes féministes, où là, on voit quand même des choses assez intéressantes qui ont été faites.
Et dans ce rapport, il est dit qu'en fait, chaque ville peut décortiquer son budget afin de voir ce qui cloche. Et est-ce que l'argent est plus attribué aux hommes qu'aux femmes? Alors comment est-ce qu'on décortique son budget et on analyse ça?
C'est la budgétisation sensible au genre. C'est un terme un peu barbare qui fait très techos, mais en fait c'est vraiment une façon de faire qui est super innovante et qui a une vingtaine d'années, même plus à l'échelle internationale. Mais en France, on était super en retard. Et il y a des villes, c'est Lyon qui a été la première à le lancer, mais après, il y a eu Lyon, Strasbourg, Paris, Rennes. Enfin, il y a eu quand même un élan en France de villes pionnières sur ces questions-là. Et c'est des villes qui vont aller décortiquer leur budget pour se poser la question de est-ce que l'argent public de la ville, in fine, bénéficie autant aux femmes qu'aux hommes? Parce que, un exemple, le préalable, c'est de dire qu'il n'y a aucun choix politique, aucune politique publique qui est neutre. Tout a un impact différencié entre les femmes et les hommes à cause des inégalités préexistantes. Je donne souvent cet exemple, c'est vous augmentez le tarif des transports en commun, comme ça. Et en fait, vous allez voir, ça impacte beaucoup plus les femmes parce que les femmes gagnent moins que les hommes. Donc forcément, elles sont plus impactées. Et en plus, les études montrent que les femmes vont plus utiliser les transports en commun que les hommes qui vont plus avoir recours à la voiture ou au transport individuel. Donc en fait, vous faites un choix qui pourrait être neutre, bam, ça touche tout le monde, mais en fait, ça touche pas tout le monde de la même façon. Et là, c'est des villes qui sont allées regarder, par exemple, votre budget au sport ou aux infrastructures. Si vous mettez tout votre budget à faire des city-stades, des skate-parks et des infrastructures de musculation, par exemple, quand on va regarder, 80% des utilisateurs, c'est des hommes. Donc, en fait, l'argent public bénéficie à la fin plus aux femmes qu'aux hommes. Donc, c'est se dire, on va arrêter d'être aveugle au genre, c'est des termes un peu techniques, et on va se poser la question et on va les regarder. Et ils ont fait ça, par exemple, sur les musées. Ils sont allés compter, dans les musées des Beaux-Arts à Bordeaux, le nombre d'œuvres féminines ou masculines. Et bien évidemment, comme il y a des inégalités préexistantes dans le milieu de l'art, ils se rendaient compte qu'en fait, 80% des collections, c'était des hommes. Et même quand ils achetaient des nouvelles œuvres, c'était beaucoup plus des hommes. Donc ils sont comptés pour en fait se dire, s'il y a une inégalité, et on va la corriger.
Mais là, il y a une part historique pour le coup. Les sculpteurs et les peintres étaient beaucoup des hommes.
Oui, c'est ça. En fait, c'est face à ça, se dire, du coup, il faut faire une politique active de corriger ça et du coup, mettre plus d'investissement sur des œuvres par des artistes féminines pour essayer justement de rééquilibrer.
Et c'est très intéressant. Mais avant de continuer cette interview, on va faire une petite pause musicale avec SO de Styx.
whisper across the shore. Every step feels final now. Names are carved into the dark. Every soul leaves just a mark. No more time, no alibi. Only echoes asking why. We cross the Styx. No return. Fire inside. Bridges burn. We cross the Styx. Skin and bone. Pay the price.
C'était SO de Styx, il est 19h20 et vous êtes toujours sur la matinale de Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Et on reprend la grande interview avec Sandra Lode-Fernandez, pardon, responsable de plaidoyer égalité hommes-femmes à Oxfam France, comme dit précédemment, et Hugo à la question. Hugo, l'antenne est à toi.
Tout à fait, nous continuons l'interview sur ce fameux rapport pour des villes féministes avec vous, Sandra. Alors, une question, cette année c'est un scrutin historique, je crois.
C'est ça.
Puisque la parité doit être respectée.
C'est ça, c'est depuis une loi de l'année dernière. Avant, les communes avec moins d'habitants n'avaient pas appliqué la parité. Et du coup, maintenant, c'est la première fois que la parité va s'appliquer sur tout le territoire français. Donc c'est une élection historique.
Pourtant, j'ai regardé un petit peu les listes dimanche et il me semble que c'est pas très bien respecté, non ?
C'est ça, c'est là où on est déçus. Et nous, on appelait vraiment à profiter de ce moment historique où la parité s'applique partout pour corriger le tir. Parce que le constat qu'on fait à Oxfam, c'est qu'actuellement, le pouvoir est encore très, très masculin. On avait publié un index sur la féminisation du pouvoir et qui regardait notamment le pouvoir à l'échelle locale. Dans notre analyse, on avait calculé que seulement un quart des postes clés du pouvoir à l'échelle locale étaient occupés par des femmes. Donc on est quand même assez loin de la parité. Et quand on regarde les chiffres, parce qu'il y a eu des lois sur la parité en France depuis début des années 2000, il y a plus de 40% de femmes élues municipales. Mais plus on va là dans les postes de pouvoir, par exemple, il n'y a que 33% de femmes premières adjointes, 20% de femmes mères, donc c'est quand même 1 sur 5, enfin, c'est rien du tout, enfin, c'est pas assez, et 12% des présidents d'intercommunalité, donc c'est un échelon qui se renforce, sont des femmes. Donc en fait, actuellement, vraiment, le pouvoir est extrêmement masculin. Là, on avait l'opportunité d'agir. Et oui, il y a déjà des chiffres, des analyses de chercheurs sur les têtes de liste. Donc, on verra après les élections. Mais a priori, on n'a pas été entendu. du coup, il va encore avoir très peu de femmes, enfin trop peu de femmes mères. Et on est très, très loin de la parité.
Mais cette mesure, est-ce qu'il y a des moyens législatifs de la faire appliquer ?
Mais en fait, c'est des listes. Donc, si la tête de liste est un homme, enfin voilà, on peut avoir la parité au sein des listes. Donc là, il y aura normalement des conseils municipaux plus paritaires. Mais la tête de liste, ça, c'est à la discrétion des partis ou des gens qui se présentent. Et nous, le message qu'on voulait passer aux partis politiques, qui sont encore dans beaucoup de villes ceux qui structurent les candidatures, de faire mieux et de s'efforcer quand même, enfin arrêter ce schéma où en fait le chef, au final, chef, le maire, le directeur de cabinet, c'est tout le temps des hommes. Et on est aussi allé regarder la composition des délégations un peu sur les aspects genrés. Et en fait, il y a encore beaucoup de dans plus de 70% des cas, les élus en charge des finances, donc l'argent, le nerf de la guerre, c'est des hommes. Et plus de 90% des élus en charge de la petite enfance, ce sont des femmes. Grosse surprise. Donc on est encore dans les schémas où le maire, le premier adjoint, celui en charge de l'argent, c'est un homme, quand les élus en charge des affaires sociales et de la petite enfance et des droits des femmes, ce sont des femmes. Donc voilà, nous ce qu'on veut, c'est quand même, il faut sortir de ce schéma. Et je ne dis pas que la petite enfance, c'est pas important, bien au contraire, et on le dit dans nos rapports. Mais il faut au sommet du pouvoir, là où on pèse sur la décision, là les arbitrages budgétaires, il doit y avoir beaucoup plus de femmes.
Et quand on parle féminisation des villes, est-ce que ça énerve pas justement les vieux machos de la politique qui sont les hommes élus au final ?
Ah bah si, et quand il y a eu la loi l'année dernière sur la parité, c'était toujours les mêmes poncifs, mais les mêmes à chaque loi sur la parité. Il n'y a pas de femmes, mais dans les communes rurales, il n'y a pas de femmes, on ne peut pas faire de liste avec des femmes, etc. Enfin, c'est toujours plus de 50% de la population, donc il y a des femmes. En fait, des femmes où ça fait des millénaires qu'on leur dit que le pouvoir et prendre les décisions, ce n'est pas leur affaire, c'est plutôt une affaire d'hommes. Donc il y a beaucoup de trucs à déconstruire. Mais en vrai, les femmes, elles sont là, c'est juste qu'on les a écartées du pouvoir... depuis toujours.
C'est juste qu'ils ne vont pas les chercher au final.
Ah oui, c'est ça. Ils préfèrent rester entre eux, je pense.
D'accord. Dans ce rapport, il est écrit « Développer la budgétisation sensible au genre ». Ça veut dire quoi, ça ?
C'est ce dont on parlait, c'est justement ça. C'est de se dire que on va aller regarder vraiment notre budget et pas que... l'ensemble du budget, parce que toute politique publique a un impact sur la réduction des inégalités femmes-hommes. Donc ça veut dire regarder son budget au sport, au soutien aux associations, à la culture, aux espaces verts, parce que même la façon dont vous allez illuminer ou pas une rue dans le soir, ça peut avoir un impact différent sur les femmes et augmenter un sentiment d'insécurité pour les femmes. En fait, c'est regarder tous les choix politiques et regarder ceux qui peuvent être redirigés vers des politiques plus égalitaires.
Et parce qu'en fait, l'urbanisme a été conçu par des hommes pour des hommes, et il faudrait qu'ils soient au final plus conçus par des femmes pour des femmes également, qu'il y ait un mix.
Ouais, c'est ça. Il y a un exemple, c'est un peu geek, mais pour montrer un peu ce sujet-là, il y a des chercheurs qui se sont intéressés au budget au Canada du déneigement. Parce que quand il y avait des fortes neiges, on remarquait que les priorités, c'était de déneiger les grands axes routiers. Et on a regardé que c'était surtout les hommes qui étaient dans leur voiture et qui allaient au travail. Mais tous les axes, par exemple, pour aller déposer les enfants à l'école, n'étaient pas déneigés. Donc en fait, c'est ce genre de choses où même si c'est pas forcément conscient, mais en fait, on va continuer à faire des choix qui sont au détriment des femmes. Donc en fait, tout a un impact sur l'égalité. Et si on se pose pas la question, c'est là où en fait, et pas forcément consciemment, mais en fait, on perpétue les inégalités entre les femmes et les hommes. Donc tout peut être féministe.
Dans les recommandations Oxfam France, il y a également le fait d'installer un observatoire dans chaque ville pour observer, pour justement arriver à pointer les inégalités de genre au sein de la municipalité. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est déjà fait et qui va être fait à plus grande échelle en France ?
Nous, ce qu'on demande, c'est les premières recommandations, c'est que là, tous les maires qui vont être élus s'engagent de faire l'égalité là, une des priorités de l'action de la ville. Et vraiment porter ces sujets, nommer des adjoints haut placés dans l'exécutif. Et après, il y a un certain nombre de choses. Les observatoires, par exemple, ça va être sur les luttes contre les violences. Il y a des exemples qui existent à Paris, dans le 93 ou dans plein d'autres... ça s'est vachement développé. Mais des observatoires des violences où on peut justement prendre des données locales et être un centre de ressources dans les politiques de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, il y a 25 recommandations dans le rapport et j'invite tous les auditeurs auditrices et auditeurs à lire ce rapport. Mais voilà, il y a un certain nombre de choses assez concrètes qui peuvent être faites et qui doivent être du coup la priorité des futures maires. Et nous, le message qu'on a voulu dire, parce qu'on a lancé aussi une campagne plus globale sur les municipales, c'est que si vous voulez nos voix, ben, en fait, il faut s'engager. Ça ne veut pas continuer à dire le 8 mars, on parle des droits des femmes le 8 mars et le 25 novembre, et le reste de l'année, bon, on fait autre chose. Là, c'est vraiment l'égalité, elle doit être tout le temps et partout, dans tous les choix de la municipalité.
Il y a un truc assez frappant aujourd'hui quand on parle de guerre justement autour du monde et quand Macron se...
Il y a beaucoup d'hommes autour de la table.
Il y a beaucoup d'hommes,
oui. Et pas de femmes, oui.
Également. Mais quand Macron est pris en train de parler à ses chefs d'armée, c'est que des hommes dans une salle d'hommes. Et au final, oui, ce monde-là est rempli d'hommes et on a l'impression, comme vous avez dit, qu'il l'a mis en tête de mandat au premier mandat et qu'il ne l'a pas appliqué.
Non, c'est sûr. Et sur le contexte international, ça, les Nations Unies, elles ont produit beaucoup d'études qui montrent que plus il y a des femmes autour de la table, plus il y a des accords de paix qui se sont trouvés. Enfin, là, on est quand même au summum de la masculinité toxique, hein, de tout ce qui est en train de se passer à l'échelle internationale. Et on voit, c'est que des hommes. Et du coup, on pense vraiment que c'est un vrai enjeu et un vrai sujet. S'il y avait plus de femmes autour de la table, je pense que les choses ne se passeraient pas forcément de la même façon. On fait juste un disclaimer dans nos rapports, c'est pas une femme égale une féministe. Et aujourd'hui, il y a des candidates à l'élection présidentielle qui sont des femmes, qui seraient vraiment un synonyme de régression importante pour les droits des femmes. Je le dis quand même, on le sait.
Même à l'échelle
Paris, en France, il y a une candidate, Marine Le Pen notamment, ce serait une très mauvaise nouvelle pour les droits des femmes. Donc voilà, il y a quand même un disclaimer, c'est que, mais parenthèse refermée. Mais oui, et on l'a beaucoup observé autour du président de la République. Et beaucoup de gens ont dénoncé un boys club, en fait. Quand on regarde les gens vraiment à l'entourage proche du président, c'est que des hommes. Et là, ça a changé. Mais quand on a publié notre index sur la féminisation du pouvoir l'année dernière, tous les postes régaliens, ça veut dire vraiment les postes les plus avec plus de pouvoir aujourd'hui en France, parce qu'on dit souvent, et c'est pour ça qu'on a fait l'index, c'est qu'on dit il y a 50% de femmes au gouvernement. Oui, mais en fait, quand vous regardez,
à la culture.
C'était même les secrétaires d'État. Là, on met toutes les femmes. Mais tous les postes régaliens, là où quand il y a des conseils justement de guerre, etc., il n'y a que des hommes autour de la table. Et même dans les cabinets, les directions de cabinet, secrétaire général de l'Élysée, etc., c'est que des hommes. Et en fait, il y a un vrai sujet en fait, de démocratie et d'équité. Et en fait, il y a quand même un vrai sujet sur un pouvoir qui est encore beaucoup trop masculin. Et quand c'est masculin, déjà, il y a quand même des risques très forts de masculinité toxique, mais surtout de pas du tout. Enfin, de négliger totalement les enjeux liés aux droits des femmes.
Tout à fait. Et on faisait une parenthèse que je vais réouvrir un tout petit peu. Il y a Sarah Knafo qui est candidate à la mairie de Paris aujourd'hui et qui a proposé une mesure pour lutter contre le harcèlement dans la rue. C'était d'installer des lampadaires avec des IA et des radars qui pourraient détecter les agressions et faire peur aux hommes en s'allumant. Est-ce que vous avez imaginé des hypothèses plausibles pour lutter justement contre le harcèlement de rue ?
Oui, il y a beaucoup de choses qui sont faites et c'était et ça qui est assez désespérant. Moi, je crois qu'elle est plus candidate, mais c'est désespérant. C'est ces gens-là qui en fait se servent du sujet des luttes contre les violences aux femmes pour faire dérouler après un discours raciste, xénophobe, insupportable. Ce genre de propositions montrent qu'ils sont pas sérieux sur la thématique. C'est-à-dire, il y a un certain nombre aujourd'hui de propositions et d'associations des femmes de femmes, enfin d'associations qui luttent contre les violences et qui accompagnent les femmes victimes de violences, et c'est très loin de ce genre de gadget là. Oui, très bien, enfin je vois bien en deux jours les riverains qui diraient la lumière qui s'allume la nuit à faire énormément de bruit, enfin c'est pas du tout sérieux. Et il y a des propositions très sérieuses dans notre rapport, mais aussi dans plein d'autres collectifs féministes très précis sur des politiques publiques sérieuses sur les questions de droits des femmes. Et moi, j'ai pas envie d'écouter des gens qui se servent de ces sujets qui sont très importants pour après dérouler un discours complètement xénophobe, comme s'il n'y avait... Enfin, ils sont disqualifiés. Eux, pour eux, ils parlent des droits des femmes et de la violence que quand ce seraient des étrangers qui agressent des femmes. Enfin, c'est absurde. Enfin, le procès Pellicot, M. Pellicot, je crois qu'il n'était pas d'origine étrangère.
Non, du tout. À la capitale du Mexique, à Mexico, il y a une mesure où il y a un wagon, le wagon de devant, qui est réservé aux femmes et enfants pour éviter justement le harcèlement. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure qui devrait être appliquée en France, ou justement ce serait séparer les hommes et les femmes et ne pas régler le problème ?
Je sais qu'il y a beaucoup de débats. Il y a eu beaucoup de débats après ça, justement, et des associations féministes qui portaient ça. J'arrive pas à me faire un avis super tranché là-dessus, parce que c'est vrai que c'est... un super aveu d'échec, en fait. C'est-à-dire que voilà, on doit faire une sorte de, une séparation, une ségrégation pour protéger les femmes, parce que les hommes ne vont jamais arrêter d'agresser les femmes. Mais, voilà. Et d'un côté, j'entends où, en fait, et on est des femmes et on le sait, hein, deux fois on s'est fait agresser dans la rue et dans le métro. On sait que c'est une réalité qui persiste. Donc voilà, j'arrive pas à savoir. Je trouve que la symbolique de ségrégation dans les transports, pour moi, elle a quand même ramène à d'autres choses. Mais c'est super triste de dire qu'on doit en arriver là, quoi.
Est-ce qu'on peut être positif pour le futur des municipales quand même? Et alors, comment est-ce qu'on va féminiser un peu plus la France demain?
Déjà, justement, nous, on est une association qui essaye de mobiliser le pouvoir citoyen sur ces questions-là. On a des bénévoles, des militants un peu partout sur le terrain, mais de plein d'autres collectifs militants, associatifs, féministes. C'est de ne pas lâcher, quoi, d'aller interpeller les élus, de leur demander de s'engager, de suivre leur action, de dialoguer et toujours faire pression sur les décideurs et les décideuses pour qu'ils intègrent beaucoup plus ces questions-là. Il y a les questions féministes, mais aussi les questions climatiques, les questions de justice sociale. Donc voilà. Donc nous, on est une organisation qui va... On lâchera pas après le 22 mars et on ira justement toquer à la porte de tous ces nouveaux maires, hormis les maires d'extrême droite, pour leur demander des engagements concrets.
Merci beaucoup. Excuse-moi. Merci beaucoup, Sandra, Lotte Fernandez, d'avoir accepté. je m'excuse alors. Sandra Lotte Fernandez, d'avoir accepté notre invitation, et malheureusement, parce que le temps file cruellement, on va devoir s'arrêter là. Et chers auditeurs, n'hésitez pas peut-être à aller lire ce rapport, parce qu'on y trouve beaucoup d'informations intéressantes et importantes à ce sujet.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Et dans la foulée, nous retrouvons Iske pour le Flash Info de ce soir. Bonsoir Iske.
Bonsoir. Le premier tour des élections municipales a déjà eu lieu et en conséquence, plusieurs candidats ont décidé de se retirer. Parmi eux, Sarah Nafou, candidat parisien d'extrême droite, et Sébastien Delorue, candidat marseillais de la gauche radicale. Tous deux ont choisi de se retirer afin d'éviter de diviser le vote au sein de leur bloc politique et ainsi augmenter leurs chances de victoire au second tour. Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris a condamné aujourd'hui les 9 policiers qui ont agressé de manière disproportionnée et injustifiée les manifestants du mouvement Gilets jaunes en décembre 2018. Les peines prononcées vont de 6 mois à 2 ans de prison avec sursis. À l'échelle internationale, l'armée de l'air israélienne affirme avoir attaqué avec succès le quartier général des gardiens de la révolution iranienne et justifie ses actions en affirmant que ce bâtiment était utilisé pour promouvoir des opérations terroristes. Pendant ce temps, selon le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, le détroit d'Hormuz est ouvert à tous les navires à exception de ceux des États-Unis et d'Israël. Le président colombien Gustavo Petro dénonce la découverte d'une bombe près de la frontière avec l'Équateur. Dans un premier temps, il soupçonne un acte provenant de ce pays voisin dans un contexte de tensions liées à des guerres commerciales. Néanmoins, il est également possible que la bombe provienne des opérations militaires équatoriennes contre les groupes narcotrafiquants. Laissant de côté les conflits, une initiative portée par des centaines de sportifs, des dirigeants fédératifs, des responsables politiques et des citoyens vise à intégrer les athlètes en situation de handicap intellectuel aux prochains Jeux paralympiques d'hiver 2030. Plus précisément, il est proposé d'inclure des disciplines telles que le paraski alpin et le paraski nordique. La décision finale est attendue en 2017 de la part du Comité international paralympique.
Merci Iske pour ce récapitulatif de l'actualité. On se retrouve dans quelques instants, mais avant ça, on s'écoute Kérosène de The Warnings. You wear it on your sleeve. C'était Kérosène de The Warnings. Vous êtes sur la matinale de Radio Campus Paris 93.9 FM. Il est 19h39 et tout de suite, c'est le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et nous retrouvons Anna qui va avoir le plaisir d'interviewer Thomas Dujac, président de l'AFNEUS, qui sera présenté dans un instant. Bienvenue, bonsoir Thomas Dujac.
Bonsoir.
Et maintenant, Anna, je te laisse l'antenne, mais avant tout, bonsoir à toi.
Bonsoir, c'est parti. Alors, il y a encore 6 mois, une étude faite par le site Vie Publique annonçait que les femmes représentaient seulement 33% des étudiants en sciences fondamentales à l'université, 25% des effectifs de classes préparatoires scientifiques et 20% de ceux des meilleures écoles d'ingénieurs. Que cela soit à cause de stéréotypes de genre bien ancrés chez les femmes depuis leur enfance ou encore à cause de gros machos qui nous disent que les maths et la physique, c'est pas pour nous, les raisons de cette inégalité sont multiples. Pour comprendre ce problème, de plus en plus de projets associatifs voient le jour, comme avec le projet Femmes en sciences, porté par l'AFNEUS, l'Association fédérative nationale des étudiants universitaires scientifiques, tout ça. Et aujourd'hui, pour nous parler de ça, nous recevons du coup Thomas Dujac. Donc Thomas, ça fait déjà quelques années que tu fais partie de l'association. Tu es passé de vice-président, puis récemment du coup de président de l'AFNEUS, et tu es aussi étudiant en master d'informatique à Lille. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter l'AFNEUS, expliquer quel rôle joue l'association dans le monde étudiant scientifique?
Ok. L'AFNEUS, ça a été créé en 1992. C'est une fédération qui regroupe des associations étudiantes d'étudiants en sciences. On est à peu près à 20 associations dans la France actuellement. Donc on a plusieurs objectifs. D'abord, ça va être de créer un réseau qui passe notamment par des événements nationaux tous les 1 mois et demi. Ensuite, on a également une mission de former notre réseau. On propose plusieurs formations pour les bénévoles de nos associations. Et puis, on a également tout un volet qui va être la défense des droits étudiants en sciences particulièrement. Et voilà.
Et du coup, comment vous organisez? C'est plusieurs villes qui se regroupent ou comment ça marche?
Ouais. Notamment pour la partie événement national, du coup, on va choisir une ville qui va organiser l'événement. Et donc, du coup, toutes les villes viennent à cet événement. Ça dure à peu près un week-end, du vendredi soir jusqu'au dimanche midi. Dans ces moments-là, du coup, on a plus les formations qui sont proposées aux étudiants et également nos temps démocratiques.
Ok. Et pour toi, pourquoi est-ce que c'est important que les étudiants ils s'engagent dans ce type d'association et pourquoi c'est important juste d'avoir cette association?
Ça va être plutôt pour la défense des droits étudiants. Globalement, c'est un de nos sujets les plus importants. Mais également aussi par nos projets Femmes en sciences et aussi la culture scientifique. C'est un volet que j'ai pas parlé juste avant, mais c'est aussi des choses qu'on défend. Et voilà.
Ok. Et parmi toutes ces actions, du coup, la question de la place des femmes en sciences, elle semble importante et être un gros axe de l'association. Comment ce sujet il s'est imposé et en fait, comment vous en êtes arrivé à créer des projets comme Femmes en sciences et des...
Tout simplement par la constatation que, par exemple, sur l'informatique, sur une promo de 200, dans ma licence, on avait genre 4 femmes. Donc tout simplement, on a voulu porter un projet pour sensibiliser les jeunes filles et casser un peu les stéréotypes qui sont dès l'enfance. Et puis voilà.
Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du coup du projet Femmes en sciences? De quoi il s'agit et comment est née cette initiative?
Alors comment il est, je n'étais pas dans l'assaut donc je ne saurais pas trop vous le dire, mais du coup on a plusieurs projets qui sont mis en place au sein du projet Femmes en sciences. Donc on a 2 expositions qui sont du coup la première les femmes d'hier et d'aujourd'hui, femmes scientifiques d'hier et d'aujourd'hui, et la deuxième qui sont les racines du problème. Donc du coup pour la première on présente plutôt beaucoup de femmes scientifiques, leur histoire un peu, leur découverte et aussi leur prix. Et sur la deuxième, on va plutôt parler de comment dire de tout ce qui a fait qu'on en est arrivé actuellement à ce problème. Donc, par exemple, ça va être l'effet Matilda, où c'était les hommes qui récupéraient les recherches des femmes et qui en récupéraient tous les lauriers. Il y a aussi donc, tous les stéréotypes, comme je le dis, depuis l'enfance, ça commence dès la maternelle. Par exemple, dans une étude, il me semble, de 2024, on avait remarqué que seulement 3% des femmes dans les manuels scolaires sont représentées en tant que scientifiques. Et puis il y avait aussi du coup dans la racine des problèmes il y en a plein, mais par exemple l'effet de harem où c'était du coup un homme qui s'entourait de beaucoup de femmes pour par exemple faire les calculs et qui récupérait évidemment tous les lauriers de ses recherches. Et ensuite on a d'autres volets qui sont du coup les interventions en collège et lycée, où on va directement parler aux collégiens et aux lycéens du coup de, notamment des racines du problème comme je vous disais, mais après on personnalise un peu en fonction de ce que demandent les établissements. Et du coup ça nous permet d'aborder tous ces sujets et aussi de faire un peu de l'orientation en sciences auprès des collégiens et lycéens.
C'est ça, est-ce qu'il y a des femmes du coup qui sont dans des carrières, des études scientifiques qui viennent du coup dans les collèges, lycées pour parler de elles un peu leurs études?
Oui, pas forcément, parce que du coup, ça dépend en fonction de nos intervenants. Et on trouve que c'est important aussi que ce soit des hommes, bien sûr accompagnés de femmes, évidemment, qui viennent parler de ces sujets importants auprès des jeunes.
Ok. Et j'ai vu que vous proposez aussi d'autres formats, comme des jeux. Il y a les Serious Games dont tu vas nous parler, ou encore des formations que tu évoquais tout à l'heure, des ateliers de groupe et tout. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ces formats? Pourquoi vous avez choisi ça? Ouais. Comment ils marchent?
Pour les Serious Games, du coup, ça va être plus auprès de notre réseau. Plutôt les formations, pardon.
Oui.
Du coup, on a plutôt des ateliers débats participatifs auprès de notre réseau, parce que même si notre réseau connaît le projet formation, c'est toujours important de continuer à en parler et à sensibiliser les étudiants. Et au niveau des Serious Games, du coup, on a deux Serious Games à la FNES qu'on a créés. Donc, un premier, c'est le jeu des 7 familles, où du coup, ça reprend plein de femmes scientifiques, on refait les familles avec les femmes scientifiques. Globalement, nous, on l'utilise beaucoup. C'est pour aborder tous ces sujets de femmes en sciences.
Parce que j'ai vu que vous parliez pas mal de représentations, qu'on citait toujours Marie Curie et qu'on ne connaissait pas d'autres scientifiques, en fait.
Oui, et du coup, ça permet d'aborder ces sujets de façon ludique avec les jeunes et ça facilite le dialogue. Et du coup, on a un deuxième jeu qu'on utilise aussi, c'est le Trivial pour Science, où globalement, du coup, c'est... C'est le trivial poursuite, mais on reprend un peu toutes les sciences et beaucoup axées. Les questions sont très axées, je peux le dire parce que je l'ai joué personnellement, très axées sur les femmes scientifiques.
Ok. Et ces jeux, où est-ce qu'on peut les retrouver? Vous les envoyez, il me semble?
Ouais. Alors du coup, bon, pour le trivial pour science, on en a 15 exemplaires, donc c'est plus en interne qu'on l'utilise. Après, pour les jeux de cette famille, on les vend. Et du coup, n'importe qui peut acheter un jeu de cette famille et globalement...
Et se faire kiffer, quoi.
Voilà.
C'est parti. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ces formats, enfin pourquoi vous avez choisi ces formats, et est-ce que vous avez trouvé que vous arriviez à toucher plus de gens qu'avec des conférences, des entretiens, des trucs comme ça?
Ces formats-là, ils nous facilitent nos interventions. Comme je disais, ça va beaucoup plus amener à la parole et au débat avec la personne, notamment au jeu des 7 familles. C'est là où on voit que c'est vraiment, à la base, les gens viennent pour jouer et puis au final, on se retrouve à parler de ces sujets. Et aussi, les expositions, du coup, qui font beaucoup parler, on les voit, on regarde. En plus, elles sont magnifiques. Du coup, voilà, les gens regardent. Et puis, si on est à côté, ils commencent naturellement à nous poser des questions. Puis là, on peut leur parler de tout ce qu'on connaît sur le sujet.
Ouais, c'est une bonne entrée en matière. Et au cours de... En fait, est-ce que vous avez déjà observé, du coup, des réactions après vos interventions ou des déclics un peu chez des jeunes filles après que vous ayez sensibilisé, du coup?
Ouais, totalement. Du coup, c'est plus sur la partie intervention collégiens et lycéens. Globalement, c'est beaucoup du coup, les collégiennes et les lycéennes, après nos interventions, qui se rendent compte un peu de tous les stéréotypes, qui disent « Ah, en fait, peut-être que c'est fait pour moi, les études scientifiques. » Voilà, quoi, c'est plutôt cool de voir ce genre de réaction parce qu'on se dit que notre travail, il sert à quelque chose et qu'il fait changer un peu les mentalités.
Et à l'inverse, est-ce que justement, au cours de vos interventions avec du coup plus la FNES, tu as déjà été témoin de situations ou de remarques sexistes envers du coup des femmes de votre association?
Pas forcément envers les femmes de notre association, mais plutôt dans les classes de collégiens notamment. On voit que du coup, les garçons ont tendance à prendre un peu plus de place et se rendent pas compte dès le début. justement de quoi on parle et tout, ils comprennent pas forcément et ouais, voilà. Ouais.
Et en ce moment, sur quoi est-ce que vous travaillez, que ce soit, enfin, quels sont les prochains projets ou nouvelles actions pour développer Femmes en Sciences?
Du coup, en ce moment, depuis quelques années aussi, hein, on fait beaucoup de communication sur les réseaux, notamment ce qui a été lancé depuis le début du mandat, c'est un mois et une femme scientifique sur Instagram. Et après, on a deux gros projets qu'on essaye de mettre en place, un qui devrait être mis en place cette année et un qui devrait arriver dans quelques années. Donc le premier, ça va être plus des grosses conférences en université avec des femmes scientifiques. Notamment, on essaierait de s'appuyer avec notre réseau pour pouvoir les organiser. Et ensuite, du coup, un deuxième projet, c'est vrai que j'en ai pas parlé avant, il y a un projet qu'on fait avec Femmes en Sciences, c'est les congrès. Donc on en a fait deux pour l'instant, il y en a eu un en 2022 à la Cité des Sciences, et on a fait un en 2024 en partenariat avec l'UNESCO. Et donc du coup, là, l'idée serait de refaire un congrès plutôt dans le courant 2027-2028, mais ça prendra beaucoup de temps à préparer.
Et du coup, vous avez l'air de travailler beaucoup avec la communauté scientifique plus installée, je veux dire, en dehors des étudiants et des jeunes. Est-ce que vous avez une sensibilisation ça intéresse la communauté scientifique?
Oui, bien sûr. En fait, je vois beaucoup les réactions de cette communauté qui sont contents plutôt des projets qu'on met en place et qu'on se saisisse de ces sujets. Et en général, ils sont très partants pour nous aider dans nos projets.
Et comment vous contactez du coup les femmes que vous invitez à vos congrès? Vous leur dites quoi? Venez parler des femmes en sciences?
Je ne saurais pas trop vous dire. On se présente, on présente le projet, etc. Puis après, effectivement, oui, on les invite à venir dans nos projets.
Et vous essayez d'avoir une pluralité un petit peu de tous les domaines scientifiques?
On essaye au maximum. Après, c'est pas quelque chose de facile, mais on essaye, ouais.
Et si on veut rejoindre l'aventure Femmes en Sciences ou la FNES, on fait comment?
Ouais, du coup, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. On a aussi nos sites web, du coup, afnes.org et femmesensciences.fr. Et voilà.
Ok, super, merci beaucoup.
Merci beaucoup Thomas, merci Anna. Et on est content que vous soyez venu échanger à d'autres micros. On te souhaite que du progrès hein, dans ces domaines-là et du succès pour la FNES. Merci Anna, bonne soirée à tous les deux. Et pour clore correctement ce Zoom, vous allez avoir la chance d'écouter Miss Millennial de Yonaka.
With the knife to feel that you run down your spine. It's alive, it's alive. Oh, have you forgotten how it goes? The way you cry when I say no. I taste the bitter in your tone. It's so cold, it's so cold. I know I should come with a warning. Watch your step.
Like, 'cause it feels like everything's my fault.
Et c'était Miss Millennium de Yonaka. Et vous êtes sur la matinale de Radio Campus Paris 93.9 FM. Il est 19h54 et juste après, c'est la chronique.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Et c'est déjà bientôt la fin de la matinale. Et oui, je suis le premier triste. Heureusement, nous avons le bonheur d'avoir Greg pour Sacro. Et non, en fait, j'ai un changement de dernière minute. On me signale à l'antenne que nous sommes en duplex avec l'empereur de la médiocrité. Bon, c'est assez exceptionnel. Allô, votre grandeur ? Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends. C'est à moi, du coup ? Ok. Cher médiocre, ce message est pour vous. Moi, empereur suprême du vide, de la petitesse, de l'insuffisance, je m'adresse à vous ce soir pour vous ouvrir les bras et vous inviter à rejoindre les rangs de mon armée de plus en plus grande. N'ayez plus peur d'exposer votre incapacité et franchissez cette barrière invisible que les bien-pensants tentent de bâtir entre nous. Mes enfants, mes disciples, l'heure a sonné. Il est de notre ressort de reprendre le contrôle de ce monde qui court à sa perte. Anéantissons la réflexion, détruisons la connaissance, réduisons à néant toute capacité de raisonnement. Ceci n'est qu'inutilité. Mes chers médiocres, une machine puissante est déjà en marche, mais elle ne peut fonctionner sans vous. Alors, continuez à vous abrutir devant vos écrans. Poursuivez votre descente aux enfers en prenant tout ce que vous lisez et entendez pour argent comptant. Je serai toujours là pour vous accompagner dans cette perte de sens, dans cette inconsidération, voire ce rejet de l'autre. Laissez-vous lobotomiser en douceur pour un avenir plus radieux. Pourquoi ce fameux cerveau devrait-il prendre tant de place alors que des professeurs émérites ont prouvé que seuls 10% nous étaient utiles ? Et que dire de ces intelligences diverses avec lesquelles les esprits libertaires nous rebattent les oreilles ? N'en ont-ils pas assez de se battre autour de l'existence de potentielles intelligences logiques, mathématiques ou verbo-linguistiques? Ces gens sont ridicules. Il suffit de voir comment la seule intelligence dite artificielle les a balayés en un claquement de doigts. Mes chers médiocres, vous, vous avez l'intelligence pure de celles et ceux qui savent sans jamais rien chercher, sans jamais rien demander. Vous savez, point. Et rien ni personne ne peut vous faire douter. Vous détenez forcément la vérité puisque c'est vous qui l'avez décidé. Alors, dès à présent, mes chers médiocres, faites de vos corps des armes de séduction massive. Faites entendre vos voix alors même que vous n'avez rien à dire. Le fond n'a plus d'importance, seule la forme en vaut la peine. Ensemble, apportons au monde le chaos qu'il mérite. Continuons à fonctionner comme des robots idiots. Marchons dans la même direction sans savoir où nous allons. Ne prenons aucune décision réfléchie qui pourrait servir au bien commun et surtout, n'envisons jamais de faire appel à l'intelligence collective, ce démon capable de soulever des montagnes. Oui, mes chers médiocres, il est temps de mettre vos pas dans les miens, de me faire confiance, alors même que je vous sais plein de doutes. Nombreux sont les enchanteurs qui tenteront de vous arracher à moi, mais je suis persuadé que vous saurez prendre la bonne décision. Grâce à vous, ce n'est pas seulement la médiocrité qui vaincra, c'est le monde qui périclitera. Alors, chers médiocres, en attendant de vous rencontrer, et tant que c'est encore possible, je vous souhaite une bien belle soirée à ne pas penser.
Merci, Votre Majesté, Votre Grandeur, Votre Altesse, pour cette digne intervention. Et c'était la matinale de Radio Campus Paris, matinale passionnante. Merci infiniment à nos invités Sarah Lotte Fernandez et Thomas Dujac d'avoir accepté de venir à notre micro. Merci à Robin à la réalisation, à Hugo pour l'interview, à Anna pour le Zoom et à Iske pour le Flash Info, à Greg pour son empereur de la médiocrité pour la chronique. Merci à Jeanne à la coordination et surtout merci à vous de nous avoir écoutés. Et vous pourrez écouter cette émission demain en rediffusion à 13h sur notre site internet dans la rubrique La Matinale. Surtout retrouvez-nous demain à 19h pour une nouvelle émission. Merci, c'était Abel et bonne soirée. We'll be right back.